C'est une grande joie d'ouvrir la Bible avec vous encore. Vous pourriez préparer déjà devant vous le texte de Job. Alors on va pas lire tout Job, ça va être long, il y a 40 chapitres, 42 même. Mais on va piocher donc ce matin dans ce livre de Job pour comprendre, pour réfléchir à cette question. Comment adorer quand tout va mal? Parce que peut-être dans votre tête, vous vous dites, tu es bien gentil Marc-Étienne, l'adoration c'est super, les chants c'est super, Apocalypse c'est super, quand on va être dans le ciel avec les anges et tout ça c'est glorieux, c'est magnifique. L'édification, quand on loue Dieu en même temps, ça a un effet sur mes frères et mes sœurs, waouh, mais ça c'est génial. Et quand j'encourage mon frère et ma sœur, ben, c'est quelque chose qui plaît à Dieu, donc l'édification c'est une manière d'adorer Dieu aussi. Bon, tout ça c'est super, c'est génial. Mais comment faire quand tout va mal? Comment faire quand on se sent déconnecté totalement de cette réalité? Comment faire quand nous nous sentons déconnectés de la réalité de ce que Christ a accompli pour nous? Eh bien oui, justement, c'est important de réfléchir dans notre série. Alors, comment adorer quand tout va mal? Est-ce qu'il y a encore une place pour l'adoration dans la souffrance? Quelle forme ça va prendre? Est-ce qu'on peut encore bénir Dieu quand ça fait mal? Et bien sûr, je ne viens pas à vous ce matin très très confiant. C'est généralement pas le cas, mais encore plus peut-être ce matin. J'ai bien conscience que plusieurs sont particulièrement affectés par des souffrances diverses. Pour certains, ça dure depuis des années, ça peut être des souffrances physiques, ça peut être des souffrances morales. Peut-être cette semaine, tout particulièrement, vous avez reçu un coup de fil que vous redoutiez, vous avez eu un coup dur. Peut-être vous n'avez pas encore trop souffert, entre guillemets, bien que je mettrai ma main à couper que c'est le cas pour personne ici dans cette salle, mais ça va être bon aussi de réfléchir à cela, parce que préparez-vous. La vie, vous le savez, ceux qui sont plus avancés en âge vous le diront. Elle n'est pas faite que de roses et de beaux temps. Il y a aussi des tempêtes. Alors j'espère avec beaucoup de sensibilité aborder cette prédication ce matin, mais en même temps encourager, en même temps attirer vos regards de nouveau, encore et toujours à Jésus-Christ, à Dieu, celui qui peut nous aider dans ce questionnement. Comment adorer quand tout va mal? Je vous invite à prier très courtement. Notre Dieu, notre Père céleste, tu es notre Père, tu prends soin de nous en toutes circonstances, en toute occasion. Ça nous a été encore rappelé ce matin. Seigneur, je te prie que par la lecture de ta parole, par la méditation, Seigneur, de ta parole, en regardant à l'exemple de Job, tu fortifies notre âme, notre cœur, nos émotions, notre esprit, nos pensées face à la souffrance que nous connaissons, que nous avons connu, qui continue de nous marquer, ou celle qui nous attend pour demain. Seigneur, rends-nous forts par ton esprit, en Jésus-Christ, pour la gloire de ton nom. Amen. Je voudrais faire trois choses ce matin. D'abord, faire quelques rappels de ce que c'est l'adoration, un peu sous forme de définition. Et puis, vous avez donc sur les feuillets le reste aussi de ce que je vais aborder avec vous. Est-ce que nous adorons Dieu par intérêt? Ça, c'est une question qui ressort dans le livre de Job. Et puis, une troisième partie, dans la souffrance. Je voudrais ce matin vous encourager, par la parole de Dieu, à persévérer, à manifester notre attachement ensemble à Dieu, le Créateur souverain. Car c'est lui qui maîtrise toutes choses. Il y a un espoir au-delà de nos souffrances. Et nous avons un médiateur unique et puissant en Jésus-Christ pour nous consoler. Mais d'abord, suite à tout ce que nous avons déjà parcouru dans notre série sur l'adoration, et ça va être utile si vous nous visitez ce matin, je voudrais prendre un moment pour rassembler un peu tous les éléments dans une définition que je voudrais expliquer rapidement. Je vais m'appuyer ici sur une proposition de définition d'un chrétien qui s'appelle Bob Coughlin, donc qui est pasteur et musicien avec donc Sovereign Grace Ministries, donc un réseau d'églises qui a aussi un ministère axé spécifiquement sur la louange, créer des chants qui nous aident alors à exprimer notre reconnaissance, notre adoration, à méditer sur ce que Dieu a fait par le chant. Par exemple, vous connaissez Notre Dieu que l'on chante parfois ici à l'église, c'est eux qui l'ont écrit, ou peut-être Devant le trône du Très-Haut, ça vient aussi de leur ministère. Je voudrais regarder un peu à cette définition et j'espère que vous reconnaîtrez que ça englobe bien la plupart des éléments que nous avons vus ensemble dans différents passages bibliques au cours des 5 semaines précédentes. Je vous la livre, écoutez. L'adoration, selon la Bible, c'est la réponse du peuple de Dieu sauvé par grâce, c'est-à-dire l'Église, si vous voulez. C'est la réponse donc de l'Église à la révélation de Dieu lui-même. Une réponse qui exalte la gloire de Dieu en Christ dans nos pensées, dans nos affections, dans notre volonté. Et cela par la puissance de l'Esprit-Saint. C'est une adoration qui doit être biblique, n'est-ce pas ? On l'a vu ensemble. L'adoration biblique, elle est radicalement différente de toute autre forme d'adoration. Nous devons adorer Dieu selon ses propres conditions et non selon les nôtres. Et la Bible, elle nous guide alors pour savoir qui est Dieu et comment nous approcher de lui. Et l'adoration chrétienne est donc une réponse. Dieu se révèle et nous répondons à cette révélation. Elle est donc là aussi radicalement différente de toute autre forme d'adoration. D'autres formes d'adoration dans d'autres pensées, dans le monde, d'autres formes de culte, organisées ou non, c'est qu'est-ce que moi je vais faire pour obtenir la satisfaction d'un Dieu, d'une idole, parce qu'en réalité il n'y a qu'un seul et vrai Dieu. Et c'est celui-là que nous devons adorer, nous ne pouvons l'adorer que si lui-même se révèle. Notre adoration n'est possible qu'en réponse à ce que Dieu a fait, en dehors de nous, dans le monde, dans l'histoire, tout autant qu'en dedans de nous, en se révélant personnellement à ceux qui lui appartiennent. Et peut-être ce matin, tout de suite j'ouvre une parenthèse, si tu n'appartiens pas au Seigneur, si tu n'as pas encore eu cette révélation de Dieu, mais demande-lui, parce que tu ne pourras pas adorer Dieu si tu ne connais pas celui qui est l'objet de l'adoration qui est digne d'un être humain. Ce n'est pas nous qui sommes les initiateurs pour obtenir quelque chose de Dieu. C'est Dieu qui est à l'origine de l'adoration. L'adoration, donc, c'est la réponse d'un peuple sauvé par grâce, pour devenir une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que nous annoncions les hauts faits de celui qui nous a appelés des ténèbres à son étonnante lumière. C'est comme ça que l'apôtre Pierre présente les choses. Un peuple saint, acquis par Dieu, pour déclarer la grandeur de Dieu. Et de ce fait, il s'agit donc non pas d'une démarche individuelle seulement, mais d'une réponse corporative, si vous voulez, la réponse d'une communauté, d'une famille entière à la révélation de Dieu lui-même. On ne peut pas connaître Dieu s'il ne se révèle pas lui-même, car il est Dieu, bien élevé, au-dessus de nous. Mais dans sa grâce, Dieu révèle sa gloire dans la création, dans l'histoire, par sa parole, et de façon ultime dans son Fils. C'est ainsi que nous sommes appelés à exalter Dieu, et Dieu seul, à faire grand cas de Dieu, si vous voulez, à élever Dieu à la plus haute place dans notre vie, à le magnifier, j'essaie de trouver des mots qui vont toucher votre cœur ici, à l'honorer par-dessus tout, à le célébrer au-dessus de toute autre chose ou de toute autre personne, même de nous-mêmes, de notre propre ego, et surtout de ça. Nous sommes appelés à manifester de la crainte, dans le sens de la révérence. Si on devait, si vous voulez, une image visuelle de ce que ça peut être, c'est se prosterner devant Dieu. C'est se soumettre au Dieu unique existant en trois personnes éternelles, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'adoration de Dieu engage donc notre être tout entier. Notre esprit et nos pensées, d'abord. Adorer, ça implique la réflexion, il faut réfléchir aux choses. Ça implique de méditer sur qui est Dieu, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il dit. De comprendre, d'évaluer, de peser si vous voulez. Peser, évaluer ce que Dieu est, ce qu'il dit, ce qu'il a fait pour être transformé, nous dit la Bible, par le renouvellement de notre intelligence. On avait lu ça dans Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. L'adoration, elle engage nos pensées, elle engage aussi nos émotions, nos affections. L'adoration véritable, elle engage le cerveau et le cœur, la pensée et les émotions. C'est l'un et l'autre, l'une et l'autre. Nous sommes tous des adorateurs et nous adorons ce que nous aimons par-dessus tout, n'est-ce pas ? C'est ce qui compte vraiment, ce que nous chérissons, ce qui a de la valeur pour nous, ce qui nous fait vibrer. C'est ça qui nous attire, qui attire notre adoration. Nous adorons ce que nous estimons de plus précieux. Alors la question, c'est de quoi s'agit-il dans ta vie ? Qu'est-ce qui est le plus précieux ? Dieu ou d'autres choses ? L'adoration, enfin, elle engage notre être entier et donc ça implique aussi notre volonté, notre pensée, nos émotions, nos affects, mais aussi notre volonté. Quand on décide les choses, on va s'engager en réponse à cela. Si nous adorons réellement Dieu, nous allons être changés, ça va nous transformer, on ne va pas rester comme on était avant de le connaître. Nos choix de vie, nos priorités, le temps qu'on va passer à faire ceci ou cela, comment nous allons occuper nos journées, nos semaines, tout cela, ça reflète notre vraie profession de foi. Tu peux dire d'une chose avec ta bouche, mais combien tu engages ta volonté à faire ceci ou cela, ça marque vraiment ta profession de foi. Ça indique à quel point Dieu règne de façon suprême dans ta vie. Et pour nous, en tant qu'Église, alors, il faut aussi qu'on réfléchisse à quel point Dieu règne de façon suprême dans la vie de l'Église de Cavaillon. Pas juste le dimanche, quand l'Église est rassemblée, mais 7 jours sur 7, vous vous rappelez qu'on avait réfléchi à ça, quand l'Église est dispersée, que chacun dans ses activités, dans la semaine, continue d'être l'Église, continue d'être un adorateur du Dieu vivant. Comment est-ce que ça va se refléter dans les priorités des uns des autres, dans nos familles ? L'adoration véritable n'est possible que par Jésus-Christ, enfin, et dans la puissance du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit et nous rend capables d'une telle adoration. Et je vous donne rendez-vous, alors la semaine prochaine, ce sera notre dernier volet de cette série. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu, comment est-ce qu'on adore Dieu en esprit et en vérité ? Alors, pour boucler un peu la boucle, cette première partie, je vous redis juste cette définition qui nous aide peut-être à rassembler nos idées. L'adoration, selon la Bible, c'est la réponse du peuple de Dieu sauvé par grâce à la révélation de Dieu lui-même. Une réponse qui exalte la gloire de Dieu en Christ, dans nos pensées, dans nos affections, dans notre volonté, par la puissance de l'Esprit Saint. Quand nous avons entamé cette série, cette réflexion commune sur l'adoration, nous sommes donc en train de penser à des choses tout à fait essentielles à la vie de l'Église, à notre vie personnelle. Ça devrait nous pousser à nous humilier devant Dieu, tout autant que nous émerveiller devant lui. Dieu est grand et nous sommes petits. Rien n'est plus évident que lorsque nous sommes plongés dans la souffrance et la douleur, n'est-ce pas ? Dieu est grand et nous sommes petits. Ça devient clair et net quand on ne maîtrise plus rien, quand tout va mal. Quand c'est impossible de s'en sortir soi-même, quand on est en train de se poser la question « Où est Dieu ?» Quand on se demande, puisqu'il est souverain sur tout, pourquoi est-ce qu'il agit ainsi ? Pourquoi est-ce qu'il permet de telles épreuves ? Et donc je vous invite maintenant à examiner un peu le cas de Job et de tirer enseignement de cet homme de Dieu qui a vécu il y a bien longtemps et dont la voix et le témoignage continuent de parler encore aujourd'hui. On va se pencher un peu sur d'abord le chapitre 1 et 2. Et je vous invite à lire avec moi donc les versets 1 jusqu'à 5. Il y avait dans le pays d'Outz un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et s'écartait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Son troupeau était de 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et son personnel était très nombreux. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient dans la maison de chacun de tour à tour pour donner un festin, et ils envoyaient une invitation à leurs 3 sœurs pour manger et pour boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient révolus, Job envoyait chercher ses fils et les sanctifiait. Puis ils se levaient de bon matin et offraient pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job agissait toujours. Waouh ! Alors là, on découvre un homme qui a vécu il y a fort longtemps. Les indications un petit peu du fait qu'on mesure sa richesse avec les troupeaux qu'il avait, avec de nombreux serviteurs, font plutôt penser à la période des patriarches, ou entre les patriarches et les juges, en tout cas assez loin dans le temps. Et cet homme, tout à fait réel, voici ce qu'on dit de lui dans la Bible, n'est-ce pas ? Cet homme était intègre et droit, vous voyez ça au verset 1 ? Il craignait Dieu et s'écartait du mal. En d'autres termes, il adorait Dieu. Il considérait Dieu comme étant supérieur à tout, comme celui qui avait droit à son obéissance, comme celui qui avait droit à sa soumission, comme celui qui avait droit à toute sa vénération. Et la conséquence de faire ça, c'est s'écarter du mal. C'est de refuser de donner à autre chose qu'à Dieu la primauté dans sa vie. Et Job est béni. On le voit encore combien il est intègre et droit, combien il révère Dieu parce qu'il agit comme un prêtre pour sa famille. Vous voyez cela ? Peut-être, c'est même pas sûr, mais peut-être, je crois qu'il a bien éduqué ses enfants, Job. Mais juste par souci d'être vraiment sincère, droit devant Dieu, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils maudit Dieu, peut-être qu'à un moment dans tous ces festins, dans toute leur jouissance de la vie, ils ont oublié d'être reconnaissants à Dieu. Dans leur cœur. Ils ont oublié de donner gloire à Dieu. Peut-être qu'eux n'ont pas adoré Dieu comme il aurait fallu. Alors ils se levaient de bon matin et offraient pour chacun d'eux un holocauste. Vous voyez ça, verset 5. Job est un homme intègre, droit, qui adore véritablement Dieu. Waouh ! On a envie de lui ressembler, n'est-ce pas ? On a envie d'être comme Job. J'espère que c'est ça. Alors on fait une prière expresse. Dieu, rends-moi comme Job. En train de t'adorer et d'être radical dans cette adoration. Et parce qu'on voit, même, ce serait un sujet de joie tellement grand pour nous. Dieu lui-même pose le même regard sur Job. Donc c'est du sérieux. Voyez ça, verset 6. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur, Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Quel témoignage quand Dieu lui-même dit cela d'une personne, n'est-ce pas ? Petite parenthèse, Satan s'est invité. Et nous, on découvre ça. Et là, on commence à avoir un petit peu des questionnements. Mais qu'est-ce qui se passe tout d'un coup ? Satan, qui ne devait pas être là, il arrive. Et voyez le défi qu'il lance à Dieu. Verset 9. « Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau se répand dans le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il est en train d'affirmer, Satan, ici ? C'est terrible, n'est-ce pas ? Il dit que Job adore Dieu parce que Dieu l'a béni matériellement, parce qu'il a beaucoup de biens. Satan est en train d'accuser Job d'adorer Dieu par intérêt, parce qu'en fait, il en retire un bénéfice pour lui-même, et que c'est ça qui tient Job à adorer Dieu, à persister à le faire de manière si profonde et radicale. Et Dieu autorise Satan à prendre tous les biens de Job, ses possessions matérielles, ses serviteurs, jusqu'à ses enfants. Et selon la Bible, n'est-ce pas, les enfants sont bien une bénédiction de Dieu. C'est Dieu qui donne cela. Dieu autorise à toucher à tout cela, à Satan. C'est terrible. Et les nouvelles arrivent coup sur coup. Tout s'enchaîne si durement, si rapidement. Job n'a pas le temps de reprendre son souffle. C'est l'expression qu'il utilise un peu plus loin quand il s'exprime. Par exemple, au chapitre 9, verset 18. Et puis voyez, le malin, l'adversaire de Dieu, l'adversaire de nos âmes aussi à nous, l'adversaire des êtres humains, il accuse Job une deuxième fois de ne pas aimer Dieu, de ne pas adorer Dieu parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il lui donne la santé. Regardez, chapitre 2, verset 1. De nouveau, la même scène. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'incites à le perdre sans cause. » Dieu a vu l'intégrité de Job. Job qui commence, et si vous connaissez le reste du livre, vous comprenez pourquoi je dis, il commence à persévérer dans l'adoration de Dieu, même au milieu de tous ses tourments. Et voyez, Satan qui s'acharne. Satan, verset 4 du chapitre 2, répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, le voici, il est en ton pouvoir, seulement épargne sa vie. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Wow. Pour le moment, Job n'est pas du tout au courant de tout ce qui arrive ici. Job, lui, tout ce qu'il voit, c'est les nouvelles de ses messagers qui arrivent pour lui dire que rien ne va plus. Tout ce que Job a pour le moment, c'est le coup de fil du docteur qui lui dit « Monsieur, vous avez un ulcère qui vous frappe de la tête jusqu'aux pieds et ça va être pas facile de guérir. Peut-être il n'y a pas d'espoir. Je connais pas. Ma médecine ne va pas jusque-là. » Regardons différentes réactions dans ce cas-là. D'abord, il faut parler de la folie, n'est-ce pas, de la femme de Job. Verset 8 du chapitre 2. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit au milieu des cendres. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité ? Maudit Dieu et meurs !» La femme de Job... Mais ne nous précipitons pas trop vite à la juger, n'est-ce pas ? Elle voit son mari dans une telle affliction, elle voit son mari dans une telle souffrance, l'homme qu'elle connaissait, c'est plus l'homme qu'elle a en face d'elle maintenant. Elle craint, j'imagine, pour sa vie. Celui qui devait prendre soin d'elle n'est plus en mesure de le faire. Et cette souffrance qu'elle-même doit endurer par ricochet, n'est-ce pas ? La pousse plutôt à vouloir maudire Dieu. Qui est ce Dieu-là qui permet de telles choses ? Dans la pression de la souffrance, la femme de Job est grandement tentée, comme un gouffre béant qui s'ouvre à ses côtés, de céder à la folie, de ne plus s'attacher à Dieu, de vivre en maudissant Dieu, non plus en l'adorant. Si j'avais des heures et des heures, il faudrait lire... tout le discours des amis de Job, on ne va pas faire ça. Mais on voit aussi la folie des amis de Job. Dans un premier temps, ils viennent pour encourager Dieu, d'ailleurs il n'y a rien à dire. Verset 13, toujours du chapitre 2, ils s'assirent avec lui par terre pendant 7 jours et 7 nuits. Personne ne lui dit un mot car il voyait que sa douleur était très grande. Qu'est-ce qu'il y a à dire quand la souffrance atteint de tels sommets ? Des fois, il vaut mieux se taire, n'est-ce pas ? Juste être là, ça c'est une bonne chose, être présent. Manifester l'empathie, manifester la compassion. Mais que dire ? Comment expliquer les choses ? Et à partir du moment où les amis de Job commencent à expliquer les choses, ils essayent de le faire non pas dans la crainte de Dieu, mais en se centrant sur eux-mêmes, sur leur raison. Ils essayent de trouver une explication rationnelle Il faut trouver une explication. Ça doit être que Job a péché. Haha, Job. Et plus le discours avance, plus ils essaient de fabriquer même des fautes que Job aurait commises qui lui attirent toute cette souffrance. Et Job se retrouve presque entraîné lui aussi. Il insiste sur son innocence et en même temps, il commence à accuser Dieu de ne pas être juste justement, de manquer de justice envers lui. Et il y a un enseignement ici, il faut se méfier de la suggestion qu'on puisse expliquer toutes nos souffrances. C'est ce que les amis de Job font et en essayant de faire ça, ils s'écartent de juste la dépendance à Dieu. Ils s'écartent de remettre entièrement leur vie et d'encourager Job à faire la même chose, de remettre entièrement sa vie dans les mains de Dieu. Voyons le vertige de Job encore. Revenez avec moi juste au chapitre 1, au verset 20. Job vient de recevoir coup sur coup les nouvelles que tous ses biens, jusqu'à ses enfants, venaient d'être détruits, emportés. Alors Job se leva, verset 20, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il tomba à terre, se prosterna. Si vous vous rappelez, ça c'est l'attitude, n'est-ce pas, d'un adorateur. Et il dit, « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. » On est touché, n'est-ce pas, quand on lit ça. Parce qu'on essaie juste de se placer à la place de Job. On se rappelle juste de quelques mois en arrière, quand une grosse douleur, ou une égratignure même parfois, nous a fait pousser un cri de douleur, et comment nous avons réagi. C'était dur, c'était difficile, on n'avait pas la même disposition que Job. En tout cas, ça m'est arrivé, je le confesse bien volontiers. Regardez encore la réaction de Job quand sa femme vient. Donc on est au chapitre 2, verset 9. Sa femme lui dit, alors que Job maintenant est touché lui-même dans son corps, dans son intégrité physique, c'est plus des choses en dehors de lui, mais c'est lui-même qui est atteint par la souffrance, par le malin qui s'acharne sur lui. Et sa femme lui dit donc, « Maudis donc Dieu et meurs !» Mais il lui répondit, verset 10, « Tu parles comme une folle. Nous recevrions de Dieu le bonheur, et nous ne recevrions pas aussi le malheur ?» En tout cela, Job ne pécha pas sur ses lèvres. Wow. Job commence comme cela. Et puis, sous la pression de ses amis, peut-être de sa femme, sous la pression de la souffrance qui dure et 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 qui dure, Job commence à intenter quand même un procès à Dieu pour avoir une explication à la souffrance. Dieu, réponds-moi. La question ici, alors, elle est aussi pour nous. Regardez la réaction de Job. En premier temps, il ne pêche pas. Il continue d'adorer Dieu dans l'épreuve. Alors, et nous ? Si Dieu a laissé Satan poser ce défi, peut-être bien que ça va nous arriver aussi dans notre vie, qu'on va être confronté à ce défi. Est-ce par intérêt que nous adorons Dieu ? Est-ce par intérêt, ce matin, que toi, tu adores Dieu ? Pourquoi, en réalité, est-ce que tu adores Dieu ? Pour ses bénédictions ? Ou pour lui-même, pour ce qu'il est lui-même ? Dieu, bizarrement, j'aurais bien aimé qu'il en soit autrement, n'est-ce pas ? Et vous aussi, Dieu ne dit pas que c'est un défi inutile. Il laisse Satan. Je ne comprends pas, je ne sais pas, je ne cherche pas à expliquer. Je vois que Dieu a jugé que c'était utile comme défi. Et ça fait écho pour moi à Jésus, si on est en lutte avec cette pensée, n'est-ce pas ? Regardons à Jésus dans le désert. Regardons dans l'autre sens. Satan demande de Jésus qu'il adore et se prosterne devant lui en échange de toutes les richesses du monde. Voilà le troc de Satan qui va sans cesse nous proposer tout au long de notre vie. Mais l'adoration biblique, l'adoration qui est due à Dieu, elle n'est pas motivée par un intérêt, n'est-ce pas ? Elle est véritable si elle est tournée vers Dieu lui-même, pour ce qu'il est lui-même. Dieu ne fait pas ce genre de promesse. Tu m'adores, alors je te donnerai ceci ou cela. Dieu ne fait pas ce genre de promesse, il en fait des meilleurs. Sa présence à lui, elle suffit. Elle dépasse de loin tous les bienfaits qu'il nous donne par ailleurs dans notre vie, dès maintenant, et qu'il va nous donner dans l'éternité. Je vous invite donc à réfléchir. Est-ce par intérêt que tu adores Dieu ? Je voudrais t'encourager. Alors, dans ma dernière partie, si tu es en lutte, comme moi, avec cette pensée, t'encourager à persévérer, à manifester ton attachement à Dieu, le Créateur souverain, parce qu'il maîtrise toutes choses. Il y a un espoir au-delà de la souffrance. Et nous avons un médiateur unique et puissant en Jésus-Christ. En fait, on voit la folie de la femme de Job, on voit la folie des amis de Job qui essaient de fournir une explication rationnelle aux souffrances de Job. On ne peut pas tout expliquer. Il y a certaines souffrances qui, c'est vrai, il y a une part de vrai, il y a certaines souffrances qui sont causées par le péché, qui sont des conséquences de notre propre péché. Mais toute souffrance n'est pas nécessairement conséquence d'un péché dans notre vie. C'est là que le discours des amis de Job avait un défaut. Et donc, il faut se méfier de la suggestion qu'on puisse expliquer toutes nos souffrances. Qu'est-ce qui va tenir Job alors, dans tout son discours, dans tout son questionnement ? Job, il est conscient qu'il n'est pas entièrement juste, entièrement pur. Par exemple, lisez avec moi, verset 2 du chapitre 9. Chapitre 9, verset 2. Job, elle exprime, il sait bien qu'il n'est pas parfait. Comment l'homme serait-il juste avec Dieu ? S'il voulait lui chercher querelle, si l'homme voulait chercher querelle avec Dieu, il ne lui répondrait pas, même une fois sur mille. Job est conscient de sa petitesse, de son péché. En même temps, on l'a vu dès le début, il n'est pas indifférent à ce péché. Il essaie de régler cette question-là. Et donc, il met en œuvre ce que Dieu a dit qu'il fallait faire dans une telle situation. Il fait les sacrifices, il demande pardon, il se repent régulièrement tout au long de ses journées. Même pour sa propre famille, il fait cela. Dans ce sens, il est dans la justice. Il cherche, n'est-ce pas, la justice de Dieu. Alors, regardez ce qui peut encourager Job. D'abord, je voudrais attirer votre attention sur le chapitre 28. Lisez avec moi, chapitre 28. Verset 9. L'homme porte sa main sur le granit. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil voit tout ce qui est précieux. Il arrête l'écoulement des eaux. Il amène à la lumière ce qui est caché. En fait, dans le début de ce chapitre 28, il y a tout un discours qui nous montre combien l'homme est capable de grandes prouesses, de chercher et de découvrir tout un tas de choses. Vous pourriez relire ça cette semaine si vous voulez. Mais regardez la question, chapitre toujours 28, verset 12. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle ? Où est donc le lieu de l'intelligence ? L'homme n'en connaît pas le prix. Elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. On ne peut pas l'acheter. On ne peut pas la découvrir par nos propres efforts. Regardez encore le verset 20. Mais la sagesse, d'où vient-elle ? Où est donc le lieu de l'intelligence ? Elle est soustraite au regard de tout être vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Mais verset 23, c'est Dieu qui en comprend le chemin. C'est lui qui en connaît le lieu. Car c'est lui qui regarde jusqu'aux extrémités de la terre. Il voit tout sous le ciel. quand il détermina le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna une prescription à la pluie, une route à l'éclair et au coup de tonnerre, alors il la vit et la compta. Il en posa les fondements et l'examina à fond. Et verset 28. Puis il dit à l'être humain, la crainte du Seigneur, voilà la sagesse. S'écarter du mal, c'est là l'intelligence. En d'autres termes, l'adoration de Dieu, voilà la sagesse. Voilà la chose qui est juste et bonne à faire, même quand on est plongé dans la souffrance. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas découvrir par soi-même. C'est pas quelque chose qui est à notre portée. Et il me semble bien qu'un des messages du livre de Job, c'est que Dieu parfois permet la souffrance pour révéler justement cette sagesse-là, pour nous amener à l'endroit où elle se trouve, cette sagesse, pour que nous apprenions à le craindre lui et à nous écarter du mal, à l'adorer, à faire ce pourquoi nous avons été créés et à trouver notre vie, notre sécurité en cela. C'est là l'intelligence. Donc ce premier verset 28 du chapitre 28 est important. La chose qu'on lit encore dans la suite, c'est que Dieu est le Créateur éternel et tout-puissant. C'est lui qui maîtrise tout, même si nous, nous ne le comprenons pas. Et comment le pourrions-nous puisque nous sommes ses créatures? Nous ne sommes pas les créateurs, nous ne sommes pas co-créateurs avec Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu créateur. Le temps de notre vie, la perspective que nous avons, la hauteur que nous avons dans notre vie ne nous permet pas d'englober tout ce qui se fait, tout ce qui existe et le pourquoi et le comment de toute la création. Et c'est Elihu alors, un autre ami de Job qui arrive sur la scène et qui commence à dire cela à Job, à redire cela à Job. C'est Dieu qui est créateur. C'est Dieu qui maîtrise les choses. Dieu lui-même affirme cela. Regardez avec moi, chapitre 38. Le Seigneur répondit à Job du milieu de la tempête. Qui est celui qui obscurcit mes projets par des propos sans connaissance ? Tiens-toi prêt, je te prie, comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu es intelligent. Qui en a fixé les mesures? Le sais-tu? Ou qui a tendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles enfoncées? Qui en a posé la pierre angulaire? Alors qu'ensemble, les étoiles du matin criaient de joie et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations. Qui a enfermé la mer avec des portes quand elle s'élança pour sortir du sein maternel? Quand je fis, pardon, de la nuée son vêtement et de l'obscurité épaisse ses langes. Qui a fait cela? Comment? Pourquoi? Est-ce que tu le sais? Toute une série de questions devant lesquelles Job, comme nous, sommes incapables de répondre, n'est-ce pas? Mais qui nous pointe vers une vérité importante, essentielle. Dieu est le Créateur et c'est toujours lui qui maîtrise son monde. Dieu est puissant, tout puissant. C'est lui qui contrôle toute chose. Même au chapitre 40, Béhémoth ou Léviathan. Peut-être vous êtes interrogé sur ces animaux qui sont décrits ici, qui sont comme des images des choses puissantes et qui semblent indomptables et chaotiques et mauvaises. Mais qui c'est qui maîtrise Béhémoth et Léviathan? C'est Dieu. Dans la situation de chaos, Dieu reste bien au contrôle de toute la situation. Dieu est le Créateur éternel et tout-puissant qui dompte les forces du mal. Et notre vie, de nouveau, elle est trop courte pour en comprendre tous les défis. De même que nous avons eu accès au chapitre 1 et 2 à ce qui se passe dans le ciel et pas Job, et ça nous a aidé à comprendre certaines choses. En même temps, Job, il dévoile... Le livre ne dévoile pas tout, il répond pas à toutes les questions. Il affirme juste quelque chose qui est essentiel pour nous à savoir dans notre vie. Nous n'avons pas accès à tout ce qui se passe là-haut, tout ce qui se passe depuis le début des jours en Éden jusqu'à la fin des temps et jusque dans l'éternité. Nous n'avons pas accès entièrement à ça. Mais il y a des vérités qui restent vraies et suffisantes pour nous à propos de Dieu. Dieu est sage. Dieu n'est pas un fou. Dieu n'est pas quelqu'un qui fait les choses dans le désordre, sans rien comprendre, sans qu'il y ait un sens. Nous, personne, peut-être pas, mais Dieu est sage. Et moi, je voudrais t'encourager ce matin, si tu es dans la souffrance, ou si tu redoutes demain la souffrance, mais nourris ton âme avec ces pensées. Dieu est sage. Dieu est puissant. En réalité, c'est lui le créateur. C'est lui qui a posé les fondements de la planète. C'est lui qui soutient la planète encore aujourd'hui. C'est lui qui sait ce qui arrivera demain. C'est lui qui l'a décidé et qui va accomplir. Dieu est puissant. Et Dieu est bon. Et ça se voit. Et pardon si c'est un peu long, mais je voudrais terminer avec ça. C'est dans le cœur, n'est-ce pas, de voir la bonté de Dieu. Dans la souffrance, plus encore que toute autre situation, nous désirons voir la bonté de Dieu. Nous désirons voir Dieu qui soit proche de nous, n'est-ce pas? C'est le même désir de Job, d'avoir un arbitre. Regardez avec moi au verset, donc au chapitre 9, au verset 1. Job parle. Il dit, en vérité, je le reconnais qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait discuter avec lui, il ne pourrait lui donner une seule réponse sur mille. À qui la sagesse et la toute-puissance? Qui lui résisterait impunément? Et regardez avec moi, alors un petit peu plus loin, toujours dans le même chapitre, au verset 32. Je lis dans la version Parole de vie. En effet, Dieu n'est pas un homme comme moi. Je ne peux pas lui répondre et nous ne pouvons pas aller ensemble au tribunal. Et ça, c'est plutôt une pensée intimidante. Si on est tellement loin de Dieu, on peut bien savoir qu'il est sage et tout puissant, mais est-ce qu'il va s'intéresser à moi dans ma souffrance? Je ne peux pas lui répondre, nous ne pouvons pas aller ensemble au tribunal. Verset 33, alors regardez le désir de Job. Entre nous, il n'y a pas d'arbitre pour poser la main sur nous deux. Un arbitre empêcherait Dieu de me frapper. Et je ne serai plus mort de peur. Je pourrais lui parler sans être effrayé. Mais ce n'est pas le cas. Je suis seul avec moi-même. C'est poignant, c'est déchirant, n'est-ce pas, d'entendre Job parler ainsi. Il faudrait qu'il y ait un arbitre. J'aimerais bien voir quelqu'un venir être capable de mettre la main sur l'épaule de Dieu et en même temps mettre la main sur mon épaule et faire le lien entre nous. Job désire voir un arbitre, un médiateur entre lui et Dieu. Regardez encore. Au chapitre 16, ce même désir de Job, au verset 18, « Terre, ne recouvre pas mon sang, que mes cris prennent librement leur essor. » Verset 19, « Dès maintenant, j'ai un témoin dans le ciel, j'ai un répondant dans les hauteurs. Mes amis me traitent avec insolence, c'est Dieu que j'implore par mes larmes. Puisse-t-il être l'arbitre entre l'homme et Dieu, entre l'être humain et son compagnon? » On dirait que la pensée de Job, elle évolue, et que d'un coup il réalise, mais Dieu lui-même pourrait être l'arbitre entre Dieu et l'homme. Il faudrait que ce soit le cas, parce que mes amis, ils m'aident pas. Mais il commence à avoir cette conviction qui s'affermit dans son cœur. J'ai dans le ciel quelqu'un qui témoigne pour moi, qui me défend. J'ai un répondant. Quelqu'un qui comprend ma situation, qui est capable de l'expliquer, qui est capable de me parler à moi dans des termes que je comprends. Et regardez, enfin, au chapitre 19, au verset 25. Conviction qui s'affermit encore plus. Job dit, je sais bien, moi, dans toute sa souffrance, c'est pas résolu encore, d'accord, chez Job. C'est là que c'est intéressant, c'est là que c'est important pour nous. Job, il est encore en train de se gratter avec des tessons de bouteille. Mais il dit ceci, « Je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la poussière. Après que ma peau aura été détruite de ma chair, je verrai Dieu. Moi, je le verrai. Mes yeux le verront et non pas quelqu'un d'autre. Les profondeurs de mon être s'épuisent au-dedans de moi. » Donc Dieu est, Job... De plus en plus, il est convaincu. Ok, ça fait mal, c'est dur. Mais j'ai quelqu'un qui prend ma défense là-haut. Et je sais, je suis convaincu que mes yeux le verront. Qu'au-delà de la souffrance, au-delà même de la mort, qui nous fait tellement peur, n'est-ce pas? Je verrai Dieu. non pas quelqu'un d'autre, moi-même. Et tout mon être s'épuise au-dedans de moi à languir pour ce jour-là, pour ce moment-là, pour voir ce médiateur unique, cet arbitre, ce défenseur. Puisque nous avons le reste de la révélation biblique, nous savons encore mieux que Job qui est ce médiateur. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui ne devait pas souffrir, qui n'avait pas de nécessité pour lui à souffrir, qui a choisi de souffrir, qui a choisi de descendre, de supporter la souffrance de tout être humain. Plus encore que ce que nous pourrons souffrir parce qu'il a porté les souffrances de tous. Lui, l'innocent, a porté le péché de ceux qui avaient rejeté Dieu. En toute chose, il s'est soumis à Dieu. Même à Gethsémané, il n'a pas fait demi-tour. Il a continué d'adorer à Dieu. Il a dit, c'est pas ma volonté qui compte, c'est ta volonté. Je te fais confiance. Il est en train de suer des grumeaux de sang et souffre à un point que nous ne pouvons pas estimer réellement. Mais il s'en remet à Dieu. Il continue d'adorer Dieu. Il craint Dieu et il s'écarte du mal. C'est ce Jésus, n'est-ce pas, qui est notre appui dans la souffrance. C'est ce Jésus qu'il faut connaître quand nous sommes plongés dans des épreuves. Je voudrais conclure très rapidement. Il y a un danger dans la détresse, dans l'amertume, dans les tourments, de se détourner de Dieu. Ça, c'est bien réel. Job était intègre et droit. Il craignait Dieu, se détournait du mal. Job ne souffre pas à cause de son péché. Mais quand ses amis viennent et lui parlent, ça ne l'a pas beaucoup aidé. Et après, il a été sur le point de se détourner de cette voie-là. La question, est-ce que Job n'est pas en train de pécher, de ne pas se soumettre à Dieu dans le courant du débat avec ses amis? Le fait d'exiger que Dieu s'explique, d'accuser Dieu d'injustice, d'intenter un procès contre Dieu, n'est-ce pas là un péché? Peut-être que oui, quand même un peu. Et donc il y a un danger, parce que là, c'est ce que nous avons envie de faire toujours. N'allons pas trop loin. Mais plutôt nourrissons notre âme dans le fait que Dieu est sage, Dieu est bon, Dieu est souverain. Dieu sait ce qu'il fait. Nous sommes en sécurité avec lui. Job s'écarte temporairement du bon chemin. Il essaie de fournir une explication comme ses amis. Il emboîte presque le pas de son épouse dans une certaine mesure en accusant Dieu d'injustice. Mais le verdict final à propos de Job est positif. Au début du livre, il est intègre. À la fin du livre, il se repent et il est intègre. Compte tenu donc de cette repentance, nous pouvons même affirmer qu'il a persévéré dans son intégrité du début jusqu'à la fin. Qui fait ça? C'est Dieu lui-même. Mon encouragement alors avec cette pensée, c'est que si tu es dans la souffrance et tu penses que tu vas vaciller, continue de faire confiance à Dieu. C'est lui qui va faire que tu vas persévérer, que tu vas être intègre au final. Et prenons exemple alors sur la patience de Job et sur sa foi. Prions pour expérimenter au milieu de nos souffrances une même révélation de Dieu dans sa souveraine justice, dans sa puissance, pour pouvoir tenir bon et attendre la délivrance. C'est Jacques, l'apôtre Jacques qui nous exhorte à ça, chapitre 5, versets 10 et 11. « Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. » Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Et louons Dieu. Jésus est l'arbitre, le médiateur, celui qui pouvait poser les mains sur les épaules de Dieu et d'hommes conscients de leurs péchés et cherchant à vivre dans la crainte de Dieu. Jésus sur la croix, il a comme une main sur l'épaule de Dieu et une main sur l'épaule des hommes et des femmes, comme Job, qui souffrent, qui comprennent pas, mais qui veulent s'écarter du mal et craindre Dieu. Plus qu'une explication, il y a une consolation. Plus qu'une explication, il y a la délivrance du mal qui est garantie en Jésus-Christ. Et à quel prix ? Jésus a été chargé de toute douleur, de toute souffrance, pour que bientôt, très bientôt, nous n'ayons plus à souffrir. Pour que bientôt, très bientôt, nous n'expérimentions plus jamais cette déconnexion avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et nous bénisse. Amen.